d'Europe. Accent d'Europe, Catherine Roland. Bonjour à tous. Censure, menace de mort, concentration des médias, détournement des aides publiques. Il n'est pas facile d'être journaliste aujourd'hui en Bulgarie. La Bulgarie qui a d'ailleurs dégringolé récemment dans le classement établi par l'ONG Reporters sans frontières. En témoigne également un groupe d'irréductibles caricaturistes qui résistent tant bien que mal aux oppressions. Leur journal Pras Press en fait les frais. Il n'est plus distribué dans les kiosques par ordre d'un député oligarque. Et c'est le reportage de Damien Vodinicharov.
Il est midi sur le parking d'une grande surface à Sofia. Une camionnette déchargée à même le sol. Elle ne transporte pas des produits alimentaires. Et le dernier tirage d'un mensuel, pas comme les autres. Son titre, Pras Press, est un jeu de mots. En bulgare, Pras fait référence au port, d'où la presse des ports. Ces éditeurs se font appeler les caricaturistes malpolis. Ils ont choisi comme arme l'humour, utilisé dans les dessins ou dans les interviews. Après avoir entassé les liasses de journaux, les caricaturistes malpolis font leur compte.
5 millions d'exemplaires. Si on enlève 3 zéros, le compte est bon.
Regardez, voilà notre héros, notre éditeur. On est à la 111e place dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Mais il y a 180 pays en tout. L'objectif est donc la toute dernière place.
Ce qu'il montre, c'est la caricature de Delian Peevski à la une du dernier numéro. Le mania des médias, nommé même chef des services de renseignement il y a quelques années, y est souvent représenté dans toute sa démesure, sa corpulence et ses dizaines de médias dont il est propriétaire. Ce sont ces portraits peu flatteurs qui ont attiré l'ire de Peevski, qui contrôle en outre 80% de la distribution de la presse en Bulgarie. Un levier puissant dont il n'hésite pas à faire usage contre Pras Press. Tchavdar Gheorghiev.
Cela fait un an que le journal existe et la situation ne fait qu'empirer. Petit à petit, on nous a écartés du marché. Le journal ne se vend plus dans les centres commerciaux, par exemple. Les kiosques indépendants ont été menacés s'ils distribuent Pras Press de ne plus avoir les autres journaux. On avait un tirage de 10 000 exemplaires, le double de notre tirage actuel. Maintenant, il n'est vendu qu'en ligne ou dans des papeteries, voire dans des quincailleries, ou par quelques enthousiastes qui l'achètent et le revendent.
Au niveau national, la collusion entre le gouvernement et les médias de Peevski est encore plus évidente, estime Ivan Bakalov, le journaliste de Pras Press.
À travers ces médias, Peevski relaie avantageusement la parole du Premier ministre Boyko Borisov, et lui, il en profite pour mieux développer ses affaires. C'est évident qu'il y a un partenariat entre les deux. Le procureur général Tsatsarov est également de la partie. C'est le Premier ministre lui-même qui l'a choisi à ce poste. Ça montre bien où en est la démocratie bulgare. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, le judiciaire est muselé et les médias sont muselés.
Parfois, les menaces envers les journalistes sont encore plus directes. Elles sont proférées carrément à l'antenne sur les plateaux de télévision. Comme dans cet extrait de l'émission de Victor Nikolaev, un journaliste très connu en Bulgarie, qui reçoit un député de la majorité, Anton Todorov, et lui pose une question désagréable. Écoutez l'échange.
Vous utilisez des mots très forts.
Ce ne sont pas les miens.
Ils vont nuire à votre carrière.
Ce ne sont pas les miens.
Votre collègue a eu des ennuis professionnels. Elle aussi avait des choses à dire, mais je constate désormais que sa chaise est vide.
Ce contrôle des médias fait maintenant partie du paysage politique, au point où des campagnes électorales peuvent reposer dessus. D'autant plus que leur financement et leur propriété sont opaques et dissimulées derrière des sociétés offshore. Et c'est la nouvelle réalité, non seulement en Bulgarie, mais aussi dans toute la région, estime Ilya Valkov, journaliste au quotidien SEGA et membre de l'Association des journalistes européens.
Malheureusement, ceux qui veulent entrer en politique le font via les médias. Ils les achètent en masse, ou alors ils font pression sur la presse encore indépendante. C'est une tendance qui se répand dans l'Est de l'Europe, en Bulgarie, comme en Pologne, en Hongrie ou en Slovaquie. Les hommes politiques pensent que le contrôle des médias, donc de l'opinion, fait partie de la vie politique.
Résultat, moins de 10% des Bulgares croient en l'indépendance de la presse nationale, alors que l'ONG Reporters sans frontières presse l'UE de réagir vigoureusement. Ironie de l'histoire, c'est encore l'oligarque et député Peevski qui se permet de se lancer à la rescousse de la presse. Cible favorite des caricaturistes de Pras Press, il a proposé une loi pour forcer les médias à dévoiler le nom de leurs propriétaires et de leur financement. Mais les observateurs y voient surtout de sa part une tentative pour régler ses comptes avec ses rivaux. Constat amer des caricaturistes de Pras Press, il n'y aura pas de liberté de la presse tant qu'existera corruption et collusion entre médias et politiques.
Avec environ 100 000 participants en France, la manifestation du 26 mai dernier n'a pas été la marée populaire espérée par les organisateurs. Parmi ces derniers, plusieurs syndicats, dont la CGT, la FSU Solidaire, qui avaient accepté de se joindre à un mouvement politique anti-Macron. À côté d'un conflit classique, comme la grève des cheminots, se pose donc la question du rôle joué par ces confédérations en France en comparaison des réalités syndicales observées chez nos voisins européens. Pour nous en parler, on retrouve Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors Daniel, est-ce que la forte politisation des syndicats est une spécificité française uniquement ?
Tout dépend de ce que l'on entend par politisation. En France, les syndicats ne participent pas, comme c'est le cas dans plusieurs pays, à la définition des programmes des partis politiques. En revanche, depuis plus ou moins longtemps, les gouvernants sont tenus de les associer à l'élaboration des politiques touchant à la réglementation sociale. C'est d'une part le paritarisme, c'est-à-dire la cogestion par des représentants du patronat et des représentants des salariés des organismes chargés de gérer les modalités de perception et d'utilisation des cotisations chômage, retraite, formation. Et puis, à côté de cela, il y a la loi sur la modernisation du dialogue social qui, depuis 2007, rend obligatoire la concertation avec les partenaires sociaux avant l'élaboration de toute loi relative aux relations de travail.
Mais le rôle politique dévolu aux syndicats en France a-t-il son équivalent ailleurs ?
Pas vraiment. Chez nos voisins, si les syndicats peuvent être consultés ou amenés à prendre position sur les évolutions de la législation, leur rôle, pour l'essentiel, consiste à négocier avec le patronat, par branche ou par entreprise, l'évolution des salaires, les conditions ou la durée du travail, la formation. Ce que font bien sûr également les syndicats français. Cela dit, en Espagne, des accords nationaux dits interconfédéraux entre confédérations patronales et salariés ont longtemps servi de base à la législation du travail, mais ils ont perdu de leur importance. En Italie, des consultations tripartites, incluant donc le gouvernement, ont été menées et des pactes signés, mais l'autonomie de décision gouvernementale n'a cessé de s'accroître au fur et à mesure que s'aggravait la désunion syndicale. Un peu partout, en Suède notamment, la quasi-disparition des négociations centralisées au profit de négociations sectorielles a fait reculer le rôle politique et sociétal des syndicats.
Même en Allemagne, Daniel, où les syndicats sont tout puissants ?
En Allemagne, comme au Royaume-Uni, les confédérations ont été historiquement associées à la réflexion programmatique des partis de gauche. Le Trade Union Congress, TUC, avec les travaillistes britanniques, le DGB avec les sociaux-démocrates allemands. Mais, outre-Manche, les liens syndicats-partis se sont réduits pratiquement à néant avec l'avènement du New Labour de Tony Blair. En Allemagne, ces liens se sont distendus, surtout depuis la mise en œuvre au début des années 2000 des réformes libérales du chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, adoptées malgré l'opposition des syndicats. De nombreux syndiqués sont désormais plus proches du parti de gauche, dit Linke, voire des Verts, dont le président du grand syndicat des services Verdi est membre.
Finalement, les syndicats français n'exercent-ils plus qu'un pouvoir de contestation ?
À la différence de la plupart de nos voisins italiens, britanniques et surtout allemands, où les grosses PME sont légion, le système productif français fait coexister quelques dizaines de grosses entreprises mondialisées avec une myriade de très petites entreprises. Conséquence, des négociations salariales et sociales très effectives au niveau des grandes firmes, fort peu opératoires au niveau des petites et plutôt en déshérence au niveau des branches. Dernier point, faute d'une démocratie locale vivante et face à l'érosion rapide de la légitimité des gouvernements en place, les confédérations syndicales sont amenées à endosser naturellement en France un rôle de porte-parole des mécontents, rôle qui les rend peu à même d'infléchir les décisions gouvernementales.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt Daniel.
À bientôt Catherine.
Pucer son animal de compagnie ou le bétail pour l'identifier, c'est une pratique qui existe depuis des années. L'expérimentation est désormais lancée sur les humains. Et oui, le futur est déjà là. En Suède, quelques milliers de salariés ont décidé de se faire poser une puce sous la peau. Ces avant-gardistes s'en servent essentiellement au travail pour l'instant, mais leurs promoteurs espèrent bien étendre leur usage à tous les aspects de la vie quotidienne. Et le reportage de Laurent Berthaud commence dans le temple des nouvelles technologies de Stockholm.
Vous pouvez pousser ce bouton là-bas ?
Hello human. If you need a human receptionist, they are over there. Epicenter welcomes you home.
Bienvenue à Epicenter, immense bâtiment de 8 étages au centre de Stockholm où sont regroupées les entreprises de la tech. De la start-up de quelques personnes à la licorne, c'est ici que se dessine le quotidien de demain. Alors autant montrer l'exemple et promouvoir de nouveaux usages comme cette puce implantée sous la peau, plus précisément dans le creux du pouce. Une puce, pourquoi faire ? Démonstration avec Hannes Sjöblad, l'un des responsables d'Epicenter qui se définit comme biohacker.
Le matin, quand j'arrive au travail, j'ai juste à présenter ma main devant le badge de l'ascenseur. Dedans, j'ai une puce, comme celle qu'on pose aux chiens et aux chats. Et je m'en sers simplement pour ouvrir la porte comme ça. Là, on peut entrer. Allons par là. Avec ma puce, je peux ouvrir différentes portes, qui peuvent avoir des codes différents. Je peux aussi ouvrir ces casiers à fermeture magnétique. Toujours grâce à mon implant. Ici, vous avez les distributeurs automatiques de boissons. J'ai juste à poser ma main au-dessus du lecteur de puce, et là je lis. Vous avez 50 couronnes sur votre compte. C'est peu, mais je peux recharger ma puce avec ma carte bancaire, ici, dans ce lecteur. Et voilà, mon implant est rechargé. Nous, ce qu'on veut éviter, ce sont les gens qui ont oublié leur clé ou leur badge et qui se retrouvent bloqués. Donc c'est un moyen plutôt sympa et pratique d'utiliser nos implants dans tout l'immeuble.
La puce en question est un petit cylindre, pas plus épais qu'un grain de riz, long de 12 mm. Ce sont des professionnels du piercing qui la posent avec une seringue en quelques secondes. Pour lire la puce, il faut être à moins de 1 cm d'un lecteur NFC pour Near Field Communication, technologie que certains smartphones utilisent déjà couramment.
C'est un lecteur de puce NFC avec une sortie USB. On peut le brancher sur n'importe quel appareil, pour déverrouiller son ordinateur, pour payer en bitcoins. Au lieu de taper un code, on utilise son implant. On peut le relier à n'importe quel système électronique que l'on veut verrouiller ou déverrouiller. Un ami à moi l'a installé dans sa voiture qu'il démarre avec sa puce, une clé de moins à avoir sur soi. Et le but pour nous, c'est bien de se débarrasser de toutes les clés, de tous les badges et de toutes les cartes en plastique. On devrait tous avoir notre clé universelle dans notre main.
Une app permet de lire et d'inscrire des informations sur la puce, nom, fonction, coordonnées, page Facebook, autorisation d'accès. Mais la technologie dépasse les murs d'Epicenter puisqu'il est déjà possible d'enregistrer des billets de train de la compagnie nationale SI sur son implant. Nina, pucée depuis 6 mois.
Je suis originaire de la petite ville de Kalmar et je voyage beaucoup par train pour venir à Stockholm. Et c'est très pratique. Bon, les contrôleurs sont parfois un peu surpris, mais la plupart sont habitués maintenant. Autour de moi, il y a des gens qui pensent que c'est cool et super. Pour d'autres, ça fait un peu peur. Mais tout le monde trouve ça intéressant.
Mais vous, pourquoi avez-vous fait implanter cette puce ?
Parce que je trouvais ça cool. J'ai un peu l'impression de faire partie du futur.
Et ça fait mal ?
Un petit peu, mais ça a duré juste quelques secondes. Le jour d'après, ce n'était pas plus douloureux qu'un bleu. J'ai aussi des tatouages et ça fait bien plus mal que la puce.
Et qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire avec votre puce dans la vie quotidienne ?
À l'avenir, j'aimerais pouvoir l'utiliser dans les magasins, dans le métro, dans les trains de banlieue, dans les bus. Et pourquoi pas avoir mon passeport dessus ?
Même si pour l'heure la technologie est loin d'offrir toutes les garanties de sécurité et que ces puces sont facilement piratables, à l'avenir, elle pourrait investir les magasins. Sophia Abjonsson, elle-même pucée, est la fondatrice de Filit, un programme de points de fidélité destiné à renforcer le commerce local. Pour chaque achat dans les commerces de leur ville, les consommateurs accumulent des points de fidélité qui se transforment en bons d'achat.
Aujourd'hui, tout le monde connaît ces petites cartes de fidélité en plastique qu'on utilise chez chez les commerçants, on l'a sur son porte-clés ou dans son sac. Notre club de fidélité en a 150 000 en circulation dans tout le pays. Mais à l'avenir, on peut tout à fait imaginer que les gens aient cette carte sous la peau, car c'est exactement la même technologie. Au lieu d'avoir une puce NFC dans une carte, on l'aurait dans la main ou n'importe où ailleurs.
As an implant in their hand or wherever they want.
Yuran Tam est l'autre fondateur de Philit et à 73 ans, il n'a pas hésité à se faire poser une puce, même si son entourage n'était pas très chaud.
Ma femme m'avait prévenu, si tu fais ça, je ne dors plus avec toi et je quitte la chambre à coucher. Après, elle a changé d'avis. Elle a dit, non, c'est toi qui quitteras la chambre. Finalement, on y est restés tous les deux.
Et quand vous en parlez avec vos amis, ils réagissent comment ?
Les gens disent, tu me fais marcher, je te crois pas. Mais finalement, ils en comprennent les avantages. Un implant, on ne peut pas le perdre. C'est plus simple et plus sûr. Impossible de perdre les clés de chez soi. On pourrait aussi inscrire des informations médicales sur la puce, très utile pour les médecins en cas d'urgence. Il y a beaucoup d'applications possibles pour un usage médical.
Pourtant, tout le monde n'est pas prêt à accepter la présence d'une puce sous la peau, d'autant que l'on n'a pas encore assez de recul sur certains détails. Sophia Abjornsson.
Moi, ça ne me fait pas peur. La seule chose que j'ai apprise après coup, c'est que la puce pouvait peut-être bouger dans le corps. On l'a observé chez des chiens qui se sont fait pucer dans le cou, mais ensuite on a retrouvé la puce ailleurs dans leur corps. Mais j'ai entendu ça pour des animaux, pas pour des humains.
Cela n'empêche pas la tenue quasi mensuelle d'implant parties en Suède. On estime que depuis 2 ans, 3500 personnes se sont déjà fait poser une puce.
Ce qu'on raconte sur toi, est-il vrai ?
Et qu'est-ce qu'on raconte ?
Que tu n'as jamais connu de femme.
Je suis très catholique.
Et c'est une raison ?
Un extrait de Ludwig de Visconti. Visconti qui, comme d'autres réalisateurs, a joué un rôle historique dans les mobilisations de 68. Les films de la Nouvelle Vague ont aussi imprégné et préparé les esprits à l'époque. Et en Italie, ce sont les grands maîtres, Fellini, donc Visconti, Pasolini ou encore Bellocchio, qui ont annoncé à leur manière mai 68. À Rome, le réalisateur Olivier Assayas a expliqué comment il avait été influencé par ses maîtres. Éric Sénanc.
Sous les plafonds majestueux du Palais Farnèse, siège de l'ambassade de France à Rome, Marco Bellocchio, l'un des maîtres du cinéma italien, et Olivier Assayas, figure du cinéma français et fervent admirateur du premier. Si Assayas n'avait que 15 ans en 1968, il a été profondément marqué par le cinéma italien des années 60.
Il y a toujours eu historiquement des liens très profonds entre le cinéma indépendant français et le cinéma indépendant italien. La Nouvelle Vague a influencé, marqué le cinéma italien et toute une génération de cinéastes italiens.
Assayas est l'auteur d'Après-mai, prix du scénario à la Mostra de Venise en 2012, un film qui décrit les turbulences du début des années 70 dans le sillage des révoltes estudiantines que 68 a incarné. Une période artistique également faste pour le cinéma italien. L'un de ses meilleurs connaisseurs est Gianluca Farinelli. Il dirige la Cinémathèque de Bologne.
Beaucoup de cinéastes italiens font des films de totale liberté. Ludwig de Visconti, Novecento de Bertolucci sont des films uniques dans lesquels les auteurs pouvaient joindre un niveau de liberté d'expression tellement haute et aussi dans lequel il y avait une dimension qui rendait possible cette créativité.
Si les turbulences de mai 68 atteindront Cannes, le festival ne décernant aucun prix cette année-là, et n'épargneront pas non plus la Mostra de Venise au mois de septembre. Des étudiants appellent au boycott de l'événement au cri de non à la Mostra fasciste. Pasolini y fait scandale avec son film Théorème et est envoyé devant le tribunal de Venise pour atteinte aux mœurs. En Italie, on parle de mai rampant pour évoquer 68, car la contestation va naître quelques années plus tôt et se poursuivra bien au-delà, jusque dans les années 70, une longévité qui se retrouve également dans le cinéma. Gianluca Farinelli.
Il y a eu un 68 italien qui, à mon avis, commence au début des années 60. Ça continue, à mon avis, ça traverse les années 70.
Ce long 68 italien ne s'achèvera que près de 10 ans après les manifestations d'étudiants. Le pays aura ouvert un nouveau chapitre, celui des années de plomb.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre et nous retrouver sur RFI.fr ou encore sur notre page Facebook. À demain.